Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Des fois, on a des personnes qui nous disaient « Ah ouais, bah vous, sans vous êtes blindés, et puis vous venez vous nourrir sur les pauvres gens. » Donc clairement, ça, c'est des choses que moi, j'ai pu entendre, et je pense que tous les huissiers l'ont forcément entendu au moins une fois, mais après, on passe un peu au-dessus. Enfin, c'est OK, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi, en fait ?
Il y a bien une profession qui fait flipper tout le monde, peut-être encore plus que contrôleur des impôts, c'est lui, c'est le huissier. Huissier, ça rime avec impayé. Comme son nom l'indique, c'est celui qui fait grincer l'huisse de votre porte, facture à la main. Mais il a une drôle de position, le huissier, parce que c'est à la fois un notable, une huile, et en même temps, c'est lui qui se confronte parfois à la misère que d'autres professions juridiques bourgeoises ne voient jamais. C'est peu connu, mais il peut aussi avoir un rôle social. Et ce qui m'a surpris par-dessus tout, c'est qu'il a en réalité un côté très pragmatique. Car c'est avant tout un chef d'entreprise. Et oui, vous allez voir, ce volet est particulièrement surprenant. Mais pour parler de l'intérieur et sans tabou de tout ça, trouver le bon interlocuteur n'a pas été facile. D'abord parce que tout huissier qui répond à une interview doit avoir l'aval de sa corporation. Et ouais, faut demander l'autorisation à leur chambre nationale. Heureusement, j'ai rencontré Pauline Thibault. Elle est franche du collier, sincère et très sympa. Elle a exercé cette profession pendant presque 10 ans. Aujourd'hui, elle a monté sa boîte de recouvrement. Elle ne bâche pas son ancien métier, mais elle peut en parler sans complexe et en toute liberté. Et nous dévoiler les secrets bien gardés des huissiers. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Pauline. Pauline, tu as 33 ans. Et pendant très longtemps, tu as exercé une profession qui nous intéresse forcément à Thune Podcast, puisque tu as été huissier de justice. Avant d'en parler, je voudrais savoir, Pauline, t'as grandi où et ils faisaient quoi tes parents ?
Je suis née en banlieue parisienne, à Creil, et j'ai migré avec mes parents très très rapidement, j'avais 5 ans, au Puy-en-Velay. Mon père était directeur financier d'une papeterie et ensuite il a créé son entreprise d'informatique. Et ils ont géré cette entreprise avec ma mère pendant plus de 20 ans, donc moi j'étais surtout connue sur cette activité-là.
Vous parliez d'argent à la maison ?
Oui, on en parlait, surtout pour qu'on ait bien conscience que, déjà d'une, on n'était pas l'hôtel, que tout n'était pas dû, que l'argent qui gagnaient mes parents, c'était de par leur travail, et que il n'était pas forcément question d'aller tout dilapider. Après, moi, de mon côté, j'ai jamais eu le sentiment qu'on ait manqué d'argent. Et mes parents, ils ont toujours tout fait pour qu'on ait ce qu'il faut. Et que je n'ai jamais eu besoin de travailler pendant mes études. J'ai voulu le faire à un moment et ils m'ont dit « Non, mais tu te concentres sur tes études, on peut te les payer, donc t'arrêtes tes conneries. Et tu vas bosser tes cours plutôt que d'aller travailler. » Par contre, on n'a jamais roulé sur l'or. Enfin, on était vraiment dans cette classe moyenne. On est parti en vacances quand on était enfant, etc. Mais pour autant, c'était pas l'abondance, quoi. Et on nous a toujours dit que l'argent, il fallait faire gaffe. Quand on allait faire les courses au ticket de caisse, ma mère pétait des câbles parce que c'était trop cher. Et souvent, on nous a dit, mais vous croyez que ça arrive tout seul, etc. Enfin, voilà, on était quand même bien sensibilisés au fait que non, ça n'arrive pas tout seul, que oui, ils bossaient pour ça et qu'on avait de la chance qu'ils puissent subvenir à nos besoins, qu'on puisse partir en vacances, etc.
Et que sans doute vous alliez, vous aussi, bosser à votre tour pour gagner de l'argent.
Ouais, d'ailleurs, dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Enfin, moi, pendant mes études, je voulais déjà travailler aussi pour dire, si, mais je peux bien aussi gagner un peu mes sous, etc. Donc, ils m'ont dit non, j'ai pas non plus hyper insisté parce que j'étais en fac de droit et que, quand même, c'est pas simple et que y avait beaucoup de boulot à fournir aussi.
Alors, pour devenir huissier, c'est pas évident, mais comment t'as eu l'idée, déjà, d'embrasser cette profession de huissier.
Je ne savais absolument pas ce que je voulais faire du tout. Il y avait le métier d'avocat qui me plaisait, le métier de magistrat, pourquoi pas. Mais à chaque fois, il y avait des mais, en fait. Et donc, je n'étais pas hyper sûre de ce que je voulais faire. Et en Master 1, j'ai eu un prof qui était trop cool. Et du coup, c'était le seul qui venait en jean, basket, chemise. Et là, j'ai dit, waouh, trop bien. Et son boulot était top. Il nous en parlait tout le temps, en fait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il était huissier. Donc, je suis allée le voir à la fin d'un cours en lui disant, mais en fait, votre boulot, il a l'air trop cool. Comment on fait ? Enfin, comment
le mec le plus cool de la fac était huissier ?
Ouais, clairement.
Ah bon ?
Clairement. Bah, en fait, faut voir qu'ils étaient tous. Alors, voilà, mais c'est assez guindé. En plus, c'est des facs de droit à Lyon, Lyon 3. Enfin, c'est quand même. Voilà, les gens sont. C'est assez. Voilà, les filles, elles viennent un peu en tailleur, machin et tout. Enfin, bon, bref, c'est assez coincé, ouais, à mon goût.
C'est assez
bon,
BCBG,
bref.
Quoi.
Ouais. Et. Et lui, non, il était vraiment, il nous donnait plein d'exemples concrets, mais c'est un métier de terrain en fait, donc il nous donnait tout le temps les exemples terrain et je trouvais ça super chouette.
Mais parce qu'on se dit pas, je pense, petit, plus tard je serai huissier.
Non, mais même en fac en fait, c'est-à-dire que même mes potes, ils savent pas ce que c'est un huissier presque. Hein,
C'est un concours pour devenir huissier. Hein.
Alors ça a changé. Moi quand j'y étais, on avait un stage professionnel de 2 ans à faire en sortie d'études. Donc stage professionnel, on avait 4 jours de boulot dans une étude et 1 jour de cours par semaine. Ça pendant 2 ans. Donc autant dire qu'on faisait en 4 jours ce qu'en en fait on nous demandait de faire sur 5.
Tu bosses en stage comme un fou quoi. Comme
ouais, tu bosses, franchement tu bosses. Enfin, on attend de toi d'être un gestionnaire. Voilà, tu te prépares aussi à un métier qui est quand même hyper exigeant et donc on nous. Enfin, c'est formateur hein, par contre.
Mais t'es payé.
Oui, on est payé par contre. Bon, en bas de la grille, un petit SMIC quoi, mais on est payé. Jusqu'à présent, on n'a jamais été payé. On apprend un métier. Enfin, franchement, c'était pour moi, c'était trop bien. C'était mes meilleures années d'étudiante aussi quoi, parce qu'on avait un peu de sous. Et à la fin de ces 2 ans, il y a un examen professionnel. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Donc, il faut avoir la moyenne pour l'avoir. Mais statistiquement et depuis toutes les dernières années, c'est à peu près 25% de réussite.
Il y a quand même beaucoup de gens qui échouent éventuellement, donc ouais. Ils se sont tapés les 2 ans
après,
de stage.
Après, moi, je me suis dit, 25%, on peut le passer 4 fois, ça fait statistiquement 100% de chance de l'avoir. Voilà, j'étais un peu dans le mindset de, en fait, statistiquement, on peut l'avoir, quoi. Donc,
tu l'as eu du premier coup ?
Oui, je l'ai eu du premier coup. Bon, pas large, mais je l'ai eu du premier coup, c'est ce qui comptait. Mais ça a changé, c'est plus comme ça, en fait, maintenant. Maintenant, le concours est avant les 2 ans de stage.
Ce qui n'est pas plus bête.
Et je sais pas. Parce que du coup, on n'apprend pas le métier non plus. Parce que nous, pendant 2 ans, même si on loupait, on avait quand même été formés pendant 2 ans. On savait bosser. Demain, on tapait à n'importe quelle porte d'un huissier. On savait que potentiellement, on avait du job. Alors que là, si on n'a pas l'examen, on a un bac plus 5 en droit, potentiellement une année de prépa pour préparer le concours. Et on n'a toujours rien appris. On ne sait toujours rien faire.
C'est un statut assez particulier. Une fois que tu as eu cet examen,
oui.
Est-ce que tu es fonctionnaire ?
Non. On est officier public et ministériel. C'est l'État, donc par l'intermédiaire du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui nous donne l'autorisation d'exercer ce métier. C'est un prolongement du service public de la justice et on a des prérogatives pour mettre à exécution les décisions de justice.
Ouais, ça y est, tu parles huissier couramment là. Ouais, ça y est, carrément. On y est.
C'est clair ou pas ?
Je trouve ça clair. En gros, vous êtes rattaché en quelque sorte et nommé et assermenté par le ministère de la Justice. Mais pour autant, vous n'avez pas le statut de fonctionnaire.
Non, on n'est pas fonctionnaire. Et tout simplement aussi parce qu'en fait, on est, une fois qu'on a été nommé par le garde des Sceaux pour exécuter des décisions de justice, et donc il n'y a que les huissiers qui peuvent exécuter ces missions-là, on a un tarif réglementé.
J'ai vu que pour parler à un huissier, déjà, après la première demi-heure ou le premier quart d'heure, je ne sais plus, c'est 75 euros la demi-heure minimum.
Alors du coup, parce que je continue son truc, c'est qu'il y a des actes où il y a des tarifs, et après, on est une profession libérale. Donc en fait, enfin libérale.
Ah, ça dépend à quel
huissier je parle. La concurrence, elle est libre, mais c'est-à-dire qu'après, c'est de la concurrence quand même. C'est-à-dire qu'il y a des huissiers qui vont faire des tarifs de consultation, il y en a d'autres qui n'en feront pas, et en fait, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Sur les actes d'exécution et de tout ce qui est en lien avec, on va dire, une procédure judiciaire, le tarif, il est réglementé. On ne peut pas appliquer les tarifs qu'on veut. Par contre, autour, si on rajoute une prestation de conseil, si on rajoute une consultation, si on rajoute de l'urgence, si on rajoute des frais de rédaction, enfin... plein de choses un peu annexes, on peut rajouter des honoraires complémentaires. Et là, c'est la concurrence, quoi. Il y en a qui vont facturer plus que d'autres, d'autres qui seront meilleurs que d'autres, d'autres qui sont plus réactifs que d'autres. Donc voilà.
Toujours dans le côté spécifique de ce statut, il y a un système un petit peu comme pour les charges vénales des notaires ou comme pour les licences des taxis. Tu achètes le droit d'avoir un cabinet, une étude ?
Oui, en fait, c'est une profession réglementée, donc on ne peut pas poser sa plaque et dire « bonjour, je suis huissier de justice ». Il y a un nombre d'études déterminé par secteur géographique. Donc un nombre à la fois d'études, donc on va dire de cabinets, et un nombre d'huissiers aussi. Et typiquement, il y a 2 voies classiques qui sont soit je rachète les parts une étude de quelqu'un qui part à la retraite, soit il y a une étude qui marche bien et qui va chercher un nouvel associé pour continuer un petit peu à absorber sa matière, etc. Et donc là, il va y avoir possibilité de vendre un certain nombre de parts. Pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive dans la boucle.
Quoi. Ça peut vachement varier le prix d'une,
oui.
d'une étude.
Ouais. Ouais. Ça dépend. En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la qualité de la clientèle. Ça dépend de la localisation. Ça dépend
du chiffre d'affaires de la.
Du chiffre
l'étude.
D'affaires, voilà. Tout ça, c'est.
Toi, t'avais
variable.
Commencé à y penser éventuellement. À acheter une.
Moi, j'ai acheté une étude assez vite au final parce que j'ai été diplômée en décembre donc 2014. Et en mars, j'ai eu l'opportunité de m'associer dans cette étude-là parce que l'huissier en place, en fait, se restructurait et donc cherchait deux personnes à qui céder la moitié de son étude. Donc lui avait gardé 50% des parts et on est deux à avoir repris 25%. Donc du coup, je me suis associée très vite.
Ça t'a coûté combien ?
J'ai acheté mes parts 250 000 euros.
T'as trouvé ça où, les 250 000 euros ?
Alors mes parents, merci encore, m'ont prêté un peu de sous. Au début, 30 000. Et après...
Ça en fait quand même pas mal à rembourser.
Ouais, c'est ça. Mais ça fait un apport quand même, parce qu'une banque, ils demandaient pas beaucoup mais d'apport, mais ils en demandaient quand même un chouille. Donc du coup...
Oui, j'imagine que c'est pas trop compliqué à avoir comme prêt, c'est-à-dire que tu vas être huissier derrière. Donc,
À l'époque, on en a consulté plusieurs banques. On parle pas en termes comme pour un loyer de « il faut que ma mensualité représente pas plus de un tiers de mon revenu », on parle en reste à vivre. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai payé mes charges courantes, mon loyer, ma bouffe, machin, plus j'ai remboursé mon prêt, il me reste combien ?
C'est spécifique, tu penses ?
C'est parce que c'est des gros montants. Enfin, du coup, là, moi, je remboursais, je crois, plus de 2000 euros par mois de prêt. Et j'avais une REM de à peu près 4000. Donc
une rémunération de 4000 euros.
C'est ça, il y avait 2000 qui partaient en remboursement de prêt. Et après, j'avais mon loyer, tout ça. Donc j'étais payée 2000 euros net après 5 ans d'études et après avoir pris le risque de m'associer.
Tu peux te dire aussi que tes parts, tu pourras éventuellement les revendre.
C'est le but, c'est ce qu'on se dit. Ouais. On dit qu'on investit aussi. On sait que pendant... Parce que là, du coup, j'avais fait un prêt sur 12 ans, je crois. 12 ans et les taux étaient hyper favorables aussi à cette époque-là. Donc après les banques, il y en a plusieurs qu'on avait consultées. Il y en a certaines qui sont vraiment spécialisées dans ces professions. Donc ils ont des conditions hyper avantageuses, avec des fonds dédiés, etc.
C'est un peu comme créer une boîte en moins risqué.
Oui, c'est ça.
En moins risqué, quoi.
C'est ça.
Vous n'êtes pas très nombreux apparemment. J'ai vu qu'il y avait un peu plus de 3000 huissiers.
Ouais,
3146, c'est pas beaucoup.
Non, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Mais en fait, c'est que l'accès à la profession, après, il est compliqué. Enfin, on peut être brillant, etc. Après, il faut l'opportunité. Et en fait, le paysage a hyper changé. Et il y a 10 ans, on pouvait encore trouver des études, comme moi j'ai eu. Mais moi, j'ai eu de la chance déjà. Je suis passée vraiment un peu dans les derniers où il y a quelqu'un qui vend son étude et puis on peut racheter comme ça.
Maintenant, c'est plus dur.
Ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu une ouverture de la concurrence. Et du coup, là où avant, on avait une étude, moi, je vais prendre mon cas, par exemple, à Grenoble. À Grenoble, il y a trois tribunaux qui étaient avant des tribunaux de grande instance. Il y en a trois. Et en fait, les études d'huissier, jusqu'à avant moi-même que je commence, c'était un tribunal judiciaire égal un nombre d'huissiers qui sont compétents dans son périmètre géographique, dans son ressort, en fait, on dit.
Donc trois tribunaux, trois huissiers ?
Non, trois tribunaux égal peut-être 10 huissiers rattachés à un, 5 rattachés à l'autre et 8-10 rattachés au troisième.
On a 23 huissiers là, donc voilà, ouais. Sur trois tribunaux.
Ouais, voilà. Mais donc du coup, chacun était en concurrence. Par exemple, les 10 du premier tribunal, ils étaient en concurrence entre 10. Mmh. Après, ceux qui étaient sur le deuxième tribunal, ils étaient concurrents entre 5. Avec un territoire géographique, une démographie différente, etc. Mais ils étaient qu'en concurrence entre eux. Et ensuite, il y a eu une première réforme qui a dit on arrête la compétences par tribunaux, et on la passe au département. Donc par exemple, en Isère, passer au département, ça voulait dire plus qu'un seul territoire. Donc, ceux qui étaient en concurrence entre 10, puis entre 5, puis entre 5 encore, ils se sont retrouvés en concurrence à 20. Donc déjà, c'est pas la même.
Donc,
jusqu'au sud de Montélimar.
Tu te retrouves en concurrence avec plein d'autres huissiers.
Avec plein d'autres. Et sur l'activité des constats, c'est une compétence nationale. Donc ce qui veut dire que des huissiers de Grenoble se retrouvent avec des confrères de Lyon sur des constats. Du coup, ça change tout, en fait.
Et ça veut dire que c'est plus dur d'être huissier aujourd'hui ?
C'est plus compliqué, ouais. Disons que le paysage a complètement changé. Parce que
si on se dit qu'il n'y en a pas beaucoup, on se dit qu'ils n'ont pas trop de galère à trouver du boulot.
Non, c'est faux parce que du coup, le fait que ça ait changé, il y a des études qui ont eu une vraie stratégie, en fait, de croissance et de positionnement et qui, du coup, se sont rapprochées entre elles. Il y a des très, très grosses études d'huissier. Il y en a des toutes petites et il y en a des un peu de taille intermédiaire qui peuvent être un peu fragiles aussi parce qu'elles sont peut-être moins attractives pour les clients. Elles ont moins la réactivité et l'agilité de quand on est tout seul.
Ah, donc ça devient un milieu très concurrentiel, quoi.
Mais surtout, maintenant, ceux qui vont réussir, c'est des études qui vont placer au cœur de leur stratégie la satisfaction de leurs clients. Et jusqu'à présent, c'était pas ça. Puisque de toute façon, le client, il avait choix entre 5. Bon, même si les 5 étaient nuls, bon, je pars un peu cash, quoi, mais même si les 5 étaient nuls, de toute façon, il allait voir le moins nul. Là, maintenant, il a le choix entre 40 et il va aller voir le meilleur. Ça change tout. Enfin, dans la façon d'exercer le métier, ça change tout. Et du coup, Il faut aussi attirer des talents, il faut attirer des personnes qui sont compétentes, parce que l'huissier, lui, il est sur le terrain, et puis il est chef d'entreprise, donc derrière, il a des petites mains qui bossent quand même, enfin, il a des collaborateurs. Et c'est pareil, il faut aller attirer les meilleurs, qui restent, qui investissent, qui s'impliquent, enfin, c'est les mêmes problématiques que n'importe quelle entreprise, en fait. Et tout le monde ne sait pas faire ça, parce qu'on n'apprend pas à faire ça sur les bancs de la fac.
Alors, on va parler un peu du métier, quand même. Toi, t'étais à Grenoble, c'est ça ?
Oui.
Et alors, tu t'occupes de quoi ? Tu fais quoi quand t'es huissier ?
Alors, c'est...
Est-ce qu'on dit huissière, déjà, pardon ?
Bah, moi, je trouve ça moche. Mais en plus, de toute façon, maintenant, on dit même plus ni huissier, ni huissière, on dit commissaire de justice. Ah, comme vrai. Ça, au moins, ça clôt le débat.
Alors, donc, quand t'es commissaire de justice, tu fais quoi ? T'arrives le matin
Alors, en fait, là, c'est pareil. Ça dépend vraiment des tailles d'études. Une étude où il est toute petite avec un seul huissier et, par exemple, une assistante ou un assistant ou un juriste.
On dit pas un clerc ?
Un clerc, ouais, voilà, ou un clerc. Il va pas avoir le même rythme que l'huissier qui a une étude avec je sais pas combien de services et je sais pas combien d'associés. Donc,
il y en a qui sont des vraies usines à gaz ou des grands bureaux de luxe à Paris avec
ouais, y a des études,
plein de gens en costume dedans.
Ouais, en costume, je pense pas, mais par contre, il y a des études, ouais, ils ont des grands locaux, des beaux locaux, quoi. Donc c'est chouette, mais encore
une fois. Il y a des huissiers de luxe.
Ouais, bon, non, je pense pas. Enfin, je sais pas.
Je sais pas, avec des clientèles fortunées et des...
Oui, mais en fait, après, les dossiers, on prend tout, enfin...
Tu peux refuser un dossier ?
Normalement, non.
T'as pas le droit ?
Normalement, on peut pas refuser. Après, il y en a qui refusent quand même. Mais en fait, on peut pas laisser quelqu'un sans recours, en fait. Donc, en principe, on peut pas refuser des dossiers. Non.
Alors, explique-moi ce que tu fais. Concrètement, pour de vrai, pas en langage huissier, en langage.
Ouais, et ben normal. Par exemple, typiquement, je vais prendre moi l'exemple que j'avais, ben, ça représente quand même une certaine catégorie d'études. Donc on avait 3-4 services, des clients qui sont type société de crédit, donc ça va être des établissements bancaires, genre quand on voit les CTLM, petit bonhomme vert là,
les crédits
machin,
à la conso.
Qui font les crédits à la conso, voilà. Ou alors les banques pour des crédits immobiliers ou des découvertes de comptes bancaires ou des choses comme ça. Ça, c'est une catégorie de clients. Donc, ces clients-là, ils envoient les dossiers, ils sélectionnent quelques huissiers par secteur géographique. Et après, ils envoient par lot de dossiers. Donc, le matin, on arrive, on voit, bah, j'ai 50 dossiers, 30 dossiers à ouvrir, ou 20 dossiers, ou 10 dossiers, peu importe.
Donc, c'est des gens qui n'ont pas payé leurs créances.
Bah, là, c'est la banque qui nous envoie, du coup, la liste des dossiers. On clique, on en sur son logiciel, on ouvre ces dossiers. Et puis là, après, on prépare les actes à aller délivrer aux personnes pour leur dire, bah, typiquement, ça va être... une première intention, ça va être soit un courrier pour informer qu'on a le dossier en recouvrement, ou alors on a déjà des décisions de justice. On va préparer un acte qui s'appelle un commandement de payer. En gros, typiquement, c'est le clerc sur son ordi, il prépare l'acte, il l'imprime, il l'agrafe, machin comme il faut, il le donne à l'huissier, qui le lit, qui le signe, qui le donne à son clerc significateur. C'est un gars qui, en gros, va sur le terrain, il prend sa petite pile, il fait sa petite tournée comme un livreur de pizza.
Et il les distribue lui-même.
Et comme le facteur, quoi.
Ah ouais.
Et il y va avec
pas
ses
par
petits...
la poste.
Non, non, il y va avec ses petits actes sous le bras et il fait sa tournée et il va taper à toutes les portes pour délivrer les commandements de payer.
Et il va taper à la porte.
Il va taper à la porte. Le but, en fait, de l'huissier, c'est d'aller rencontrer les gens sur place. Donc, on va taper à la porte. Bonjour, huissier. Voilà, j'ai un commandement de payer pour tel organisme, pour ce crédit conso que vous n'avez pas payé. Et là, bah, c'est pourquoi, comment on fait. Et donc, ben là, on a plein de situations différentes parce que soit il n'y a personne. Soit on se fait jeter.
Ça arrive souvent.
Ouais, bah oui, forcément. Soit on se fait insulter, voilà, mais c'est pas non plus la majorité des cas. Soit bah, on tombe sur des gens qui, en fait, étaient au pied du mur et tant qu'on n'avait pas topé à leur porte, en fait, il se passait rien, quoi. Donc bah, là, ils commencent. Enfin, moi, j'en ai eu plusieurs cas, quoi. Des gens, ils sont là, bah ça y est, bah, vous êtes là, bah de toute façon, je m'y attendais. Ou alors, enfin voilà. Puis après, c'est bah, est-ce qu'on peut discuter ? Est-ce qu'on peut trouver un arrangement ? Est-ce qu'on peut voir comment faire, en fait, pour solder votre dossier ? Parce que j'en sais rien, vous devez 10 000 balles. Bah, il va bien falloir les rembourser, en fait, d'une façon ou d'une autre. Donc, le but, là, c'est d'engager un dialogue avec la personne pour arriver à trouver des accords entre la banque qui veut tout de suite et le gars qui n'a pas payé, qui ne pourra jamais rien payer. Enfin, donc, il faut bien qu'on trouve un espèce de truc au milieu pour arriver à trouver des accords.
Qu'est-ce que tu peux faire, toi ?
Bah, on fait ensemble l'étude de leur situation, leur rentrée, leur sortie, les aides qu'ils peuvent avoir les aides à droite, à gauche, leur...
Après, t'es pas là pour faire de l'accompagnement budgétaire ou pour être assistante sociale ?
Si.
Ah ouais ?
Si.
Mais
si,
tu factures tout, toi, parce qu'en même temps, tu
coûtes
cher.
Bah non, là, on facture rien. Là, ça fait partie... c'est le coût du commandement. Après, c'est le boulot. C'est-à-dire qu'après, un huissier, il est payé sur l'encaissement aussi. Donc, quand il encaisse de l'argent, il a un honoraire qui est pris sur les sommes encaissées, qui est répercuté sur le client. Surtout, il y a une petite part sur le débiteur, mais pas tant que ça. La majorité, c'est sur le client. Enfin, quand je dis client, c'est l'organisme bancaire. Et donc voilà, après on essaye de trouver des arrangements. Et donc si, clairement, on est assistante sociale. Enfin,
Ah, toi, tu le vois vraiment comme ça ?
Ah bah oui, oui, oui. On aide les gens, en fait, à y voir plus clair, parce qu'en fait, le nombre de personnes qui va avoir des assistantes sociales, il y en a en fait pas tant que ça.
Bah, généralement, quand quelqu'un se retrouve à avoir l'huissier qui sonne à la porte, c'est qu'il y a eu une forme de déni, d'émission, moment au moins traversé d'une période difficile qui fait qu'on n'a pas trop ouvert le courrier.
Oui. Oui, clairement.
Ou qu'on n'a pas voulu regarder la tête en face, ou qu'on n'a pas pu, ou qu'on a lâché un peu.
Clairement, mais il y a plein de situations différentes. Il y a des gens, c'est des spécialistes aussi, hein, il faut le dire. Hein. Il y a des gens, ils accumulent les dossiers de crédit à la conso, ils n'en ont rien à faire, ils déposent des dossiers de surendettement, merci, au revoir, j'ai plus de dettes, et puis je recommence. Enfin, à un moment, il y a des spécialistes, il faut quand même le dire.
Et les spécialistes, il y en a qui peuvent s'en tirer ?
Je sais pas, moi, après, je suis pas dans leur vie quotidienne, donc je sais pas comment ils vivent.
Non, mais toi, par exemple, en tant que huissier, comme t'as des commandements, toi, ton but, c'est qu'ils payent.
Bah oui, mais si après, ils déposent des dossiers de surendettement, les dettes, s'ils ont des arrangements avec la Banque de France, et puis s'ils ont des. Ou même un effacement de dettes, ça reste quand même rare, mais s'ils ont des arrangements, ça s'impose à tout le monde, en fait. Donc nous, on peut plus rien faire, on renvoie les dossiers.
Dans ces cas-là, t'es un peu agacée ou.
Non, en fait, on s'en fiche. Enfin, au bout d'un moment, ça nous passe au-dessus. Non, mais en fait, si après, on met. Enfin, moi, si je mettais vraiment tous mes principes sur chaque dossier, enfin, en fait, on pète un câble, quoi.
T'as une vraie distance qui se construit ?
Ouais.
Une forme de carapace ou de mise à distance, ouais, de...
Ouais, complètement, bah, parce qu'à force de voir les dossiers, on... Je peux pas à chaque fois être scandalisée de me dire « Ah là là, celui-là, il abuse du système, le système n'est pas fait pour ça. » Bah oui, il abuse, bon bah voilà, c'est une part de la population, ils abusent, terminé. Enfin, moi, je passe à autre chose, quoi. Je passe au dossier suivant sur lequel il y a des trucs à faire et sur lequel on va essayer d'aider la personne à s'en sortir, enfin...
Oui, ou inversement, tu pourrais aussi être fatigué d'avoir de l'empathie. Il y a peut-être des jours où t'as pas spécialement envie d'avoir affaire à tout ça. C'est quand même bizarre, en fait, parce que c'est ouais. Les dettes des gens qui te rapportent, toi, ton argent.
Ouais. Bah ouais. C'est... Mais en fait, après, voilà, nous, là, on a commencé par prendre l'exemple de l'organisme bancaire. Donc, ça fait un peu de peine à personne que l'organisme bancaire ne gagne pas ses sous. Mais il y avait d'autres choses. Alors, l'autre qui ne fait pas de peine, et je l'avais aussi, et il y a plein d'études qui les ont, c'est l'URSSAF. Donc, clairement, l'URSSAF, je pense que la dernière personne qui ne voit pas envie de payer, c'est l'URSSAF, on est bien d'accord. Mais bon, pour autant, c'est dû quand même. Et si on réfléchit dans sa globalité du sujet, ben, l'URSSAF, ça paye les cotisations sociales qui alimentent tout notre système social, en fait. Donc après, OK, on n'aime pas l'URSSAF, mais est-ce qu'on aime ne pas payer quand on va chez le médecin ? Oui. Est-ce qu'on aime ne pas payer 200 000 euros pour son traitement quand on est malade ? Ben, on aime bien aussi, quoi. Donc, on est peut-être bien content que le système fonctionne. Est-ce qu'on n'est pas content d'avoir des allocations familiales ? Ben, si. Enfin... Donc après, quand on regarde en très très large, bah oui, on poursuit pour le compte de l'URSSAF, mais après, voilà, c'est aussi pour une cohérence du système. Les crédits conso, bah, pareil, le cheminement inverse, est-ce que c'est OK ou pas d'avoir de cautionner qu'on puisse faire des crédits à la consommation ? En fait, après, c'est tous ces sujets qu'il faut remettre en perspective.
J'ai l'impression qu'on les voit vachement moins, les crédits conso, en ce moment.
Il y en a, ça a été, en fait, il y a eu une sorte d'âge d'or des crédits conso. Moi, je suis arrivée à la fin de ça, clairement. Enfin, c'était fini quand même depuis déjà quelques années. Mais oui, il y a eu un moment où, en fait, il y en avait... Mais c'était des dossiers, ils arrivaient par carton de centaines parce qu'en fait, ils en accordaient à tout le monde. Enfin, c'était un peu n'importe quoi.
Et ils accordaient trop facilement ?
Ouais, je pense que c'était pas du tout vérifié. Et maintenant, c'est hyper réglementé. Enfin, il faut faire des études quand même de solvabilité. Il faut... Enfin, c'est hyper engageant. On écrit partout qu'un crédit doit être remboursé, machin. Enfin, vraiment, c'est beaucoup plus réglementé que ce que la SL était. Donc, il y en a beaucoup moins.
Mais donc, les gens prenaient peut-être trop de crédits ou trop inconsciemment.
Ouais, mais je pense que c'est un tout avec une époque. Enfin, c'était la consommation à fond. Maintenant, on en revient. On dit la décroissance... Il y a quand même ces discours-là qu'on entend de plus en plus. À une époque, on ne les entendait pas du tout.
C'était mais alors, du coup, cet âge d'or du crédit à la conso, c'était aussi l'âge d'or des huissiers.
Oui. Bah oui, oui, clairement. Clairement, il y a eu un moment, les huissiers, il y a toujours les débuts qui peuvent être potentiellement compliqués parce qu'on ne sait jamais dans quelles conditions on reprend une étude. Hein. Mes anciennes associées vous diront, ah, mais j'ai repris, ou même, je me rappelle quand j'étais en stage, mon ancien maître de stage, j'ai repris mon prédécesseur et c'est parti avec la caisse, je suis reparti avec un truc.
Y avait, non,
y avait
huissier qui part avec la caisse.
Ouais, non, mais voilà, il y a toujours des histoires comme partout, quoi. Il y en a un, mon prédécesseur s'était suicidé, ou il y en avait un, je sais pas, enfin, bon, bref, il y avait toujours des cas où c'était, les débuts étaient pas forcément faciles, quoi. Mais par contre, oui, il y a eu un âge d'or où c'était, les dossiers, ils tombaient un peu tout seuls dans une compétence qui était hyper limitée avec pas de concurrence. Enfin, oui. Franchement, il y a eu un âge d'or, c'est vrai.
Ça donne un rapport à l'argent qui doit être quand même déjà particulier si on s'arrête juste sur ce point. C'est-à-dire que, par exemple, cette explosion des crédits à la consommation dont tu parles, cette époque d'il y a 10 ans, ou un peu plus, donc ça donne des tas de cas de surendettement qui permettent à des études de faire fortune. c'est assez particulier, quoi. C'est un peu...
Après, ils font pas fortune sur le surendettement. C'est pas parce qu'en fait, justement, les études, il y a quand même beaucoup d'autres activités. Donc, il va y avoir ces dossiers-là. Mais les dossiers des crédits conso, oui, c'est rémunérateur, mais c'est pas ça qui va vraiment faire la grosse valeur des études. C'est plutôt la diversité des dossiers. Après, on va avoir tout le contentieux locatif aussi. Des gens qui payent pas leur loyer.
Donc, là, il y a entre 15 et 20 000 personnes qui sont en situation de se faire expulser. Aujourd'hui, en 2023, apparemment, il y a une hausse de plus de 230% sur 20 ans.
Ouais, j'ai entendu, même d'ailleurs, sur les dernières années, il y a des hausses de loyers impayés. Bah oui, mais ça, bah, les gens, ils ont de plus en plus de mal à se loger. Les loyers, ils augmentent, c'est super dur. Enfin, les salaires augmentent pas. Enfin voilà, après, c'est
ça reste une tâche pas très marrante.
C'est une traduction d'une réalité économique, en fait.
Ça reste une tâche pas très marrante pour le huissier.
Non, mais là, par contre, on touche à bon, bah, il y a du HLM, par exemple, il y a des bailleurs sociaux, mais après, il y a aussi tous les particuliers, le parc des particuliers. Donc, quelqu'un qui fait un petit investissement locatif pour arrondir ses fins de mois ou j'en sais rien, ou se constituer un petit patrimoine, bah, quand il se prend des loyers impayés, bah, lui, ça le met aussi dans la mouise. Il va y avoir après, dans un autre registre, tout ce qui touche aux particuliers, donc par exemple quelqu'un qui prête de l'argent, des reconnaissances de dette, des pensions alimentaires, pour aussi des femmes, souvent des femmes, malheureusement 80% des cas, c'est quand même des femmes qui ne sont pas payées de leur pension alimentaire. Donc là, on est bien content de le trouver, l'huissier. Donc, bah, sauf qu'il n'y a pas d'huissier spécialisé dans la pension alimentaire. Enfin, un huissier, il fait tout. Il ne fait pas qu'une partie.
Toi, tu as vécu ça comment ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu beaucoup d'empathie pour quelqu'un, ou des situations, ou des rencontres, ou des moments peut-être où tu n'as pas eu envie de te lever le matin et d'y aller ?
Non, j'ai toujours eu envie d'y aller. Moi, je suis toujours partie du principe que les gens n'étaient pas de mauvaise foi. Par contre, il faut le prouver assez vite quand même aussi. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des arrangements. Par contre, si la personne... Enfin, il faut voir aussi qu'on arrive en dernière limite. Donc, avant que l'huissier intervienne, il y a quand même eu plein de démarches amiables qui ont été faites. Le mec, il découvre pas un beau matin quand l'huissier l'appelle qu'il a une dette. Enfin, il le sait depuis longtemps quand même. Et donc, du coup, on essaie de trouver des solutions. Maintenant, il faut que le mec en face ou la nana en face réagisse et propose des choses et qu'on co-construise, qu'il montre qu'il a envie de s'en sortir, qu'il a envie. Et si il a pas envie... ou qu'il n'a pas les moyens, bah, y a plein de leviers légaux qui existent pour qu'ils s'en sortent. Enfin, on est dans un pays où les consommateurs, ou les parties qu'on appelle un peu les parties faibles, entre guillemets, sont hyper protégées. Genre des pensions alimentaires, il y a la CAF qui peut compenser. Enfin, une personne qui ne paye pas son loyer, qui veut se faire expulser, il a quand même plein d'associations qui existent pour essayer de l'aider, pour éviter d'avoir des expulsions. Sur du crédit à la conso, ou quand les gens sont surendettés, il y a tous les systèmes de surendettement qui existent. Enfin, en fait, on peut demander des délais à des juges. Enfin, on a l'aide juridictionnelle si on n'a pas les moyens. Enfin, il y a quand même plein de leviers qui existent pour quand les personnes ne sont vraiment pas en capacité de payer, elles ont à leur disposition tout un panel de solutions qui existent pour qu'elles s'en sortent. Donc après, là où la bonne foi... fait un peu quand même son apparition, c'est ok, vous pleurez, vous pouvez pas, et vous faites quoi concrètement pour arriver à vous en sortir ? Parce qu'il y a des choses à faire. Et en fait, c'est un moment aussi de remettre les gens face à leurs responsabilités.
On te pleure beaucoup, hein ?
Ouais, on pleure un peu. Mais après, encore une fois, moi j'ai des exemples de personnes, ils étaient dans mon bureau, ils pleurent, bon bah maintenant on a fini, on sort les mouchoirs, on fait quoi en fait ? Donc on voit avec eux, on leur explique tout ce qui est possible de faire. Il faut aussi savoir qu'un huissier, quand il a notamment des sociétés de crédit, il peut négocier des soldes avec les clients, c'est-à-dire bon bah j'en sais rien moi, il doit 18 000, est-ce qu'on peut pas aller faire un solde à 15 000, 12 000 s'il paye d'un coup pour essayer de réduire la dette en fait.
Ah tu peux faire ça.
Oui on peut. En fait après c'est de la négo.
T'as énormément de pouvoir en fait, hein. T'as le pouvoir de saisie aussi.
Ouais, mais après l'huissier c'est lui qui décide est-ce qu'il saisit ou est-ce qu'il saisit pas. Donc après moi celui qui me dit toujours il peut pas, qui fait jamais rien ou qui répond pas ou qui fait le mort ou qui nous dit des trucs qui tient jamais, bah au bout d'un moment oui il se prend une saisie sur son compte bancaire et là on voit. Et des fois, il y a largement assez d'argent pour solder.
T'as accès au compte bancaire ?
Bah, on connaît les comptes bancaires. Après, on sait pas ce qu'il y a dessus. Tant qu'on n'a pas fait une saisie, on sait pas ce qu'il y a dessus. Donc après, c'est un peu au pif, quoi. Et il y en a, il y a de l'argent. Il y en a, il n'y a pas. Il y en a quand on les saisit, ils sont au bout de leur vie. Il y en a d'autres, on n'a toujours pas de nouvelles. Les gars, on leur saisit 10 000 euros. Ils n'ont toujours pas réagi. J'ai eu un cas comme ça. Je n'ai jamais eu le mec au téléphone. Bon, bah...
Tu lui as prévu une brique et...
On lui avait pris tous ses loyers, son arriéré-loyer, plus tous les frais de procédure. Donc il y en avait pour peut-être 15 000 balles. Et le gars, je ne l'ai jamais eu au téléphone.
Bon, bah, c'est pas très grave en même temps.
Non, mais c'est pour dire que voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de... Bon, ça reste marginal des cas comme ça, mais on ne peut jamais savoir à l'avance, en fait, est-ce que vraiment les gens Ce qu'ils nous disent, c'est est-ce que c'est vrai ou pas, en fait. On ne sait pas, en fait, ce qui se passe. Tant qu'on n'a pas, à un moment, été voir plus loin ou qu'on n'a pas passé la porte pour aller faire dans le domicile un inventaire du mobilier où là, on voit la réalité des gens, on ne sait pas.
Tu vois beaucoup de misère ?
Ouais, quand même. Hein. Bah, quand même, parce que en fait, souvent, quand on arrive et puis qu'on passe la porte... ouais, franchement, des fois, c'est chaud quand même. Hein. On se dit, bon, bah, lui... Mais au moins, on le sait. Bah, il nous mitonne pas, il peut rien faire. À un moment, il peut rien faire. Donc, mais après, voilà, encore une fois, il y a de la distance à prendre, parce qu'il y a des gens aussi, ils vivent dans des trucs qui, moi, je vivrais jamais dedans, mais pour autant, c'est pas du tout qu'ils ont pas d'argent, c'est juste que les gars, ils s'en fichent, ou que, enfin... Il y a tout. Après, il y a des trafics aussi. Enfin, moi, je sais qu'en locatif, une histoire que m'avait racontée mon ancienne associée, il devait faire une expulsion, il passe la porte. Donc, c'était pas pour expulser, c'était en amont, parce qu'on peut rentrer quand même sous couvert de faire une saisie à l'intérieur d'un logement. On peut rentrer avant l'expulsion, histoire aussi de voir à quoi ça va ressembler. Enfin, avant d'aller faire une expulsion, c'est bien d'avoir mis un pied dans les lieux avant pour se rendre compte un peu du truc. Bah, il est arrivé. De toute façon, le locataire, en fait, il empochait tous les loyers. En fait, il avait sous-loué son appart. Donc lui, il payait pas à son locataire principal, mais il empochait les loyers en espèces de prostituées. Et ça, c'est des réalités, mais tant qu'on n'a pas passé la porte, on peut pas forcément savoir, quoi. Donc voilà.
Ah, tu sais pas du tout sur quoi tu vas tomber, en fait.
Non, pas trop, franchement. Après, il y a un peu des grandes catégories, quand même. On se rend bien compte un peu suivant les quartiers où les gens habitent, etc. Est-ce que c'est une maison, pas une maison, des apparts, de la banlieue, etc. Donc, on peut préjuger un peu, mais en fait, on sait jamais à 100% de ce qu'on trouve derrière la porte, quoi.
On a toujours un peu dans l'idée que c'est les gens un peu pauvres qui vont se retrouver à se faire visiter par ta profession. Est-ce que c'est forcément le cas ?
C'est le cas, je dirais, surtout ce qui va être... clairement, les crédits conso, c'est là où on a le plus de personnes qui n'ont pas des moyens. Et parce qu'ils n'avaient pas les moyens, on fait des crédits qui, en fait, ne peuvent pas rembourser. Après, bah, quand on est sur de l'URSSAF, par exemple, on va surtout être dans des entreprises. Des entreprises où ça bat un peu de l'aile, j'en sais rien, des restos où c'est pas... ça marche pas hyper, mais là on est dans des endroits professionnels, on n'est pas chez les gens. Enfin, donc c'est pas forcément des gens non plus qui vont hyper mal, sauf qu'ils passent des passes qui sont un peu plus compliquées. Et après, surtout ce qui est des dossiers locatifs aussi, souvent c'est compliqué parce que bah, si on paye pas son loyer, quand même, le loyer c'est quand même la première chose que les gens payent. Donc quand ils le payent pas, c'est quand même que globalement la situation va pas, clairement. Mais après, on a aussi des gens, surtout ce qui touche au privé, tout ce qui touche. Bah, aux pensions alimentaires, aux machins, il y en a, ils payent pas juste parce qu'en fait, ils peuvent plus encadrer leur ex-femme et qu'ils ont pas du tout envie de payer la pension, quoi. Enfin, et le mec, il peut avoir plein de thunes. Enfin, donc, ça dépend un peu, quoi.
Qu'est-ce que tu préférais faire ?
Les constats, moi, c'était ce que je préférais parce qu'au-delà de l'activité recouvrement, exécution des décisions de justice, il y a une grosse, grosse activité. Et d'ailleurs, il y a des études qui ne font quasiment que ça. C'est du constat. Et là, c'est aller récolter les preuves nécessaires pour faire un procès, en fait. Et là, c'est hyper varié, enfin, tout peut être constaté, en fait.
Qu'est-ce qu'on t'a demandé de constater, par exemple ?
Ben, j'ai eu plein de trucs, alors, des trucs hyper classiques, ça va être des états des lieux avant de faire des travaux, par exemple, dans des logements, ben, avant de faire des travaux, je constate que soit il y a zéro fissure sur mon mur et il est parfait, donc s'il y a une fissure, on en déduira que peut-être, potentiellement, c'est à cause de l'autre qui tape au marteau-piqueur au-dessus de ma tête, ou alors, au contraire, ben, c'est celui qui va faire les travaux qui dit « je veux faire un constat avant pour qu'on inventorie toutes les fissures qu'il y a dans l'appartement et qu'on vienne pas me dire que c'est de ma faute, par exemple. »
T'as pas fait constat pour la Française des Jeux ou les gagnants de The Voice ?
Alors moi non, mais par contre j'ai un copain qui était dans l'étude du fameux Maître Nadjar de la Nouvelle Star, donc ouais, si ça existe aussi. Après c'est voilà, ça après c'est des huissiers un peu parisiens, je pense, qui ont les bons contacts.
Faut du réseau, voilà, pour arriver, ouais, à faire ça, pour décrocher,
ouais,
ces clients-là.
Ouais, c'est clair. C'est clair, mais après, si, on en a eu des jeux concours aussi sur des gens, bah, tout le monde peut faire des jeux, quoi. Un supermarché qui organise un jeu concours, bah, il fait constater son règlement par l'huissier, et puis le tirage au sort, etc. Donc ça, on en a fait. Et après, en constat un peu plus originaux, j'ai fait deux SMS dans le cadre d'un harcèlement au travail. Une nana qui était harcelée par son ancien employeur, et elle avait mais des tonnes et des tonnes et des milliers de SMS de son ancien employeur. Donc elle m'a fait constater, donc j'en ai eu pour des plombes. Différents, mais sur des SMS aussi, un gars qui s'était fait arnaquer sur un site de rencontre et qui avait envoyé 15 000 balles à une nana qui lui faisait les yeux doux et tout. Moi, c'était les grosses arnaques, quoi. Donc là, je vous passe les détails des petits SMS croustillants qui s'envoyaient des photos. Donc c'était génial. Il était 8h du matin, un lundi, je m'en rappelle très bien. En plus, mon associé, il était rentré chercher un truc dans mon bureau. Et moi, j'étais en train de lire « Oui, donc, envoie-moi la photo de ton sexe, je sais pas quoi. » Moi, j'étais là, allez, tout va bien. Il me regardait, il me dit « Mais tu fais quoi ?» J'étais là « Non, mais pars. » On a des constats sur de la contrefaçon. Enfin, en fait, on a plein de constats différents qui peuvent se faire. Et ça, c'est hyper passionnant parce que c'est des dossiers à enjeu un peu.
T'es déjà en train de travailler en partenariat avec un avocat.
Ouais, là, tu bosses en partenariat avec des avocats parce que dans suivant la stratégie qu'eux, ils veulent faire pour leurs clients, ben, ils nous orientent sur comment il faut qu'on constate. Et du coup, c'était quand même intéressant. Et j'avais eu le cas une fois, par exemple, sur un dossier détournement de clientèle. C'était deux gars, ils étaient associés. Il y avait un des associés qui était parti, qui avait monté sa boîte concurrente et il avait embarqué tout le fichier client. Donc du coup, je me suis pointée avec un expert informatique pour aller fouiller dans tout l'ordinateur du gars pour faire l'inventaire de tous ses clients pour montrer que derrière, c'était les mêmes ou pas d'ailleurs clients que celui de son ancien associé, quoi.
Mais quand t'arrives quelque part, tout le monde doit te laisser rentrer.
Bah là, j'avais les flics, par contre, parce que j'avais une décision de justice. En fait, les constats, c'est un peu différent. C'est que soit c'est un constat à la demande d'une personne et on va chez cette personne à sa demande, donc bon, bah il y a pas de sujet, ils nous laissent rentrer. Soit c'est à la demande de quelqu'un d'autre à aller constater. Bah là, par exemple, dans l'entreprise de l'autre, donc clairement, il allait pas nous laisser rentrer. Donc on avait une décision de justice qui nous autorisait à aller faire le constat avec la force publique. Donc là, j'avais deux gendarmes avec moi, et donc quand on débarque en mode avec deux gendarmes, bah, c'est soit ça se passe bien et on les libère. Soit il reste. Mais moi, dans tous les cas, le conseil, il faut que je le fasse et ça dure la journée. Donc, soit vous coopérez, soit pas. Moi, je m'en fiche, mais moi, je fais ce que j'ai à faire, quoi. Donc, j'avais un expert informatique avec moi qui craquait tous les mots de passe, tous les trucs pour.
Si quelqu'un te dit non, en fait.
Donc,
si quelqu'un te dit non, tu rentres pas, qu'est-ce qui se passe?
Bah, c'est les flics qui interviennent à ce moment-là. Ou alors, je fais ce qu'on appelle un procès-verbal de difficulté en disant je n'ai pas pu rentrer. Et donc, dans ce cas-là, je redemande un concours de la force publique pour intervenir. Parce que là, normalement, dans la première intention, on va dire les flics, ils sont là par. On va dire...
Intimidation.
Ouais, un peu. Et après, on peut vraiment avoir la force publique qui va intervenir pour nous aider et prêter main forte, en fait, pour de vrai. Et où là, ça veut dire, en gros, les gars, soit ils les embarquent, soit ils les tiennent, quoi. Enfin, pour nous permettre de faire ce qu'on a à faire.
C'était déjà arrivé ?
Non.
Et c'était déjà arrivé d'être menacé ou de te sentir en danger ?
Alors, moi, personnellement, non. Par contre, clairement, j'ai des confrères, oui. Et il y a déjà eu des cas graves d'huissiers. Enfin, il y en a un notamment. Enfin, clairement, il a fini en fauteuil roulant, quoi, parce qu'il s'est fait casser la gueule. Donc, oui, clairement, ça peut arriver. Nous, on a même notre ancien clerc à un moment qui s'est fait menacer avec un flingue sur la tempe, quoi. Donc, clairement, ça fait.
C'est quoi, c'est des gens qui pètent les plombs pour des questions de thunes, justement?
Ouais, bah parce que les gars, ils supportent pas qu'on vienne chez eux. Donc, ouais, si, clairement, moi, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais parce que. Je préférais vraiment faire des constats un peu sympas et tout. Donc, clairement, j'étais pas dans des endroits qui étaient trop craignos.
Ah, tu t'es un peu mise à l'abri.
Ouais, bah on a réparti les tâches avec mes anciennes associées. Et c'était plutôt eux qui allaient dans les quartiers chauds et moi qui prenais plutôt la gestion aussi interne de l'étude. Et puis les trucs plutôt en ville, ça, voilà. Et clairement, c'est plutôt mes associées qui étaient sur les quartiers un peu plus chauds. Mais par contre, si c'est chaud, il faut faire gaffe. Moi, mon ancienne associée, quand des fois on allait... On avait des dossiers sur des véhicules, par exemple des leasings qui n'étaient pas payés, donc il fallait enlever les bagnoles en fait. Donc quand t'enlèves une bagnole à quelqu'un, je peux dire que le mec il pète un câble. Hein. Donc là, il faisait gaffe quoi.
La bagnole, c'est un sujet sensible.
Bah ouais, il faisait gaffe, il allait la chercher à 6h du mat quoi. Il allait pas à la sortie de l'école quoi. Enfin. Donc ouais, si, il faut faire attention. Après, il faut connaître, c'est un métier de terrain, ce que je disais tout à l'heure, donc les huissiers ils connaissent leur terrain. Ils connaissent les contraintes, ils savent où il faut aller, quand, dans quelles conditions. Enfin, voilà, après, il ne faut pas être inconscient, quoi. Et après, les clients, à des moments, on leur disait aussi, ben là, il n'y a rien à faire, on vous rend le dossier, parce qu'en fait, si on y va, c'est limite au péril de notre vie, entre guillemets. Enfin, à un moment, des fois, c'est quasiment ça, et on ne va pas jusque-là. Enfin, après, il faut quand même aussi être intelligent, quoi.
Il y a des gens qui arrivent à se soustraire à votre autorité, justement, soit parce qu'ils sont effectivement très effrayants ou très dangereux, soit parce qu'ils sont très riches ou très puissants.
Alors, le très riche et très puissant, on n'a pas eu. Enfin, moi, je n'ai pas eu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi, je ne l'ai pas eu. Et le oui, parce qu'ils sont en mode intimidation, oui, clairement.
Donc, si tu montres assez fort les dents, tu peux passer...
Ouais, enfin, il faut quand même... Ouais, oui, mais voilà, c'est pas juste de l'intimidation. Derrière, c'est des mecs, ils ont peur de rien, en fait. Enfin, franchement, nous, on est à Grenoble. Quand on va, enfin, après, je pense que des quartiers de Lyon, de Paris, de Marseille, c'est pareil. Enfin, à un moment, quand tu peux juste pas rentrer, parce qu'il y a des zones de non-droit, et ben, tu rentres pas, c'est tout, c'est comme ça. De toute façon, si tu rentres, ils te descendent. Donc, en fait, tu rentres pas. Enfin, c'est juste un moment, il faut être intelligent, quoi.
Quand tu te déplaces, généralement, c'est pour des sommes de quel ordre?
Ça dépend. Souvent, on est quand même sur des sommes... Enfin, c'est rare d'aller faire des procédures et tout pour des sommes en dessous de 1000 ou 1500 euros, mais voilà.
Tu dois avoir une tranche un peu standard, non? Je sais pas, 2000 à 20 000 ou un truc comme ça, non?
Ah oui, si on prend des tranches aussi larges que ça, oui. Oui, bah 2000 à 20 000, c'est pas mal.
Ouais, c'est ça. C'est ouais.
Donc un dossier toi... à 15 000 dans une étude, c'est déjà un bon dossier. Des dossiers à 2-3 000, il y en a beaucoup. Enfin, ouais.
Et il y a des gens que t'as pu vraiment aider ?
Ouais. Ouais, bah, carrément. Bah, plusieurs même. Plusieurs même, et dont une qui même encore maintenant, des fois, me fait des commentaires sur LinkedIn, que j'ai retrouvé sur LinkedIn sur ma nouvelle activité. Et elle m'a remercié 1000 fois de l'avoir aidée, parce que justement, j'ai pu négocier avec elle des soldes de tout compte avec ses créanciers en disant « Non, mais attendez, elle est vraiment dans une situation compliquée. » Enfin, j'ai vraiment prêché pour elle, mais parce qu'elle était vraiment de bonne foi, elle faisait tout pour s'en sortir. Elle cumulait des jobs et tout. Ben, il lui est arrivé qu'elle a monté une boîte et que ça n'a pas marché, qu'elle était caution perso. Qu'en même temps, elle a divorcé. Qu'elle a dû déménager, machin, et que son ex-mari lui a pas payé ce qu'il lui devait dans le divorce et tout. Donc, elle s'est retrouvée avec endettée sur sa boîte à titre perso, endettée au niveau de son loyer ou de son emprunt immobilier qu'elle avait. Comme elle avait été dirigeante, elle avait pas droit au chômage. Enfin, voilà, elle s'est retrouvée dans la merde, quoi. Enfin, et donc, du coup, moi, je l'ai plutôt aidée à essayer de dire, bon, bah, ok, on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, tous vos créanciers qui sont pas avec un huissier, bah, vous les payez pas. Enfin, à un moment, vous allez payer les plus pressés, enfin voilà quoi, il faut être
C'est toi cohérent. Qui dis ça.
Ouais, bah oui, mais parce qu'en fait, la nana, il faut lui trouver des vraies solutions, donc je disais, ceux-là, ils en sont où? Bah, ils m'ont envoyé une mise en demeure. Bah, on s'en fiche, tant qu'ils vous ont pas fait une décision de justice et qu'ils sont pas venus frapper à votre porte, on les paye pas, tant pis, c'est pas grave. Et on va après aller voir, sur celui-là, on va essayer de négocier tant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Enfin, montrez-moi où est-ce que vous avez trouvé du boulot, c'est quoi votre nouveau job, vos nouveaux revenus? Enfin, j'ai fait vraiment des points réguliers avec elle. Et ça a été accepté par le client qu'elle solde, et son nouvel employeur, elle a eu de la chance, l'a aidé. Aussi.
Mais c'est quasiment du coaching.
Bah ouais, mais là, à ce niveau-là, oui, parce que voilà, parce que après, j'avais eu un bon lien avec elle, parce que voilà, donc elle, oui, je l'ai aidée, elle m'a remercié plusieurs fois derrière.
Et t'as le temps de faire ça, c'est un peu à perte, parce qu'à côté de ça, t'es
chez
l'entreprise,
comme tu
dis.
Ben oui, mais ça fait partie du job, en fait, à un moment aussi. Enfin,
tu penses que tous les huissiers font ça ?
Bah, j'en sais rien, mais j'ai envie de dire que tous devraient le faire.
Quand t'arrives dans un dîner en ville ou une teuf ou je sais pas, chez des gens que tu connais pas et que tu dis bonjour, je suis huissier,
ouais,
c'est
ça
quoi
va,
la réaction?
C'est cool, bah, je sais pas, ah ouais, ça fait quoi un huissier? Moi j'ai rien à me reprocher. En fait, les gens des fois ils pensent qu'on est la police. Mais ils me disent ah, mais moi je déclare tout. Je dis moi je m'en fiche, je déclare ce que tu veux, c'est pas mon problème. Enfin,
ils vous confondent avec le fisc.
Ouais, je sais pas, des fois les gens ils font un peu des raccourcis comme ça, mais en fait après non, ça se détend assez.
Il y a un côté figure autoritaire.
Ouais, un peu. Un peu, ouais.
Après, c'est assez chic, puisque les rémunérations sont bonnes, qu'éventuellement le pouvoir est grand. Et c'est totalement en contraste, effectivement, avec les univers que tu vas rencontrer tous les jours dans le
ouais.
travail, quoi.
Mais c'est ça, je pense aussi, qui est difficile, parce que des fois, on a des personnes qui nous disaient « Ah ouais, bah vous, soit vous êtes blindés, et puis vous venez vous nourrir sur les pauvres gens. » Donc clairement, ça, c'est des choses que moi, j'ai pu entendre, et je pense que tous les huissiers l'ont forcément entendu au moins une fois, mais... Après, on passe un peu au-dessus. Enfin, c'est OK. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi, en fait? Enfin, parce que je pense qu'il faut aussi être un peu... Enfin, pas rentrer dans ce délire de je culpabilise de gagner de l'argent parce que je poursuis des gens qui n'en ont pas. Enfin, à un moment, c'est un métier qui a toute sa place et qui est essentiel dans la société, parce que sinon, enfin, c'est la porte ouverte à tout, en fait. S'il n'y a pas d'huissier, s'il n'y a pas d'exécution des décisions de justice, ça veut juste dire qu'on peut ne pas jamais payer ce qu'on doit. Enfin, donc voilà... Je pense qu'à un moment, on a quand même bien vite compris que ça ne fonctionne pas et qu'il faut des garde-fous, et ça fait partie de ces garde-fous. Donc, après, il y a un niveau d'étude, il y a un niveau de responsabilité, d'urgence, parce qu'après, il y a ces constats, il y a tous les actes qu'on délivre aussi dans le cadre de procédures judiciaires avec des délais. Des fois, on fait des trucs hyper en urgence. Un avocat qui nous appelle, en plus, c'est toujours le vendredi soir, ce truc. Il nous appelle le vendredi soir avec un acte à remettre avant lundi matin à 5 personnes ou 10 personnes aux quatre coins du département, quoi. Bon, bah, ok, bah, on va y aller, quoi. Enfin, et donc du coup, bah, c'est en dernier jour, c'est en mode urgence, il faut pas se planter sur son acte, parce que si on fait une boulette, et ben, le truc est nul, donc tout se casse la gueule, et donc si c'était le dernier jour, et ben, juste ben, merci, bonjour l'assurance professionnelle, parce que j'ai fait boulette. Enfin, donc il y a quand même toute cette pression, et tout ça, c'est à faire ensemble, c'est-à-dire qu'après, il faut gérer aussi les gens, les réactions des gens, la colère, etc. Enfin, donc c'est un métier qui est quand même dur. Plus le côté chef d'entreprise où il faut faire tourner ses équipes, il faut faire tourner sa boutique, quoi, comme dans n'importe quelle boîte.
Ouais, on sent que ça pulse, hein.
Donc, ouais, donc il faut pas s'endormir, et donc il y a une responsabilité, il y a de l'enjeu, il y a du stress, enfin, donc la rémunération, elle est pas volée. Mais je pense que si on peut, on est bon si on fait du cas par cas, en fait. Donc si on fait. si on fait de l'abattage et qu'on traite tout le monde de la même façon et tout le monde à la même enseigne, ça fonctionne pas en fait et ça marche pas. Et pour moi, c'est pas des huissiers qui fonctionnent comme ça, c'est pas des bons huissiers. Après, quand je dis huissier, je mets dans la boucle tous ces collabs. Parce que c'est les clercs, après, hein, d'huissiers qui sont aussi au contact des gens, qui vont répondre au téléphone, tout ça.
Il y a des clients que tu peux pas saquer, des fois ?
Bon, comme partout, oui.
Ouais.
Des fois, ce que je disais à des clients, c'était quand le client il me cassait plus les pieds que mon débiteur, je lui disais, en fait. Je lui disais, non, mais en fait, si les clients commencent à être plus pénibles que mes débiteurs, ben, en fait, je vous rends votre dossier, quoi.
Ah, tu vois, je te demandais si tu pouvais refuser des...
Bah, je l'ai pas refusé, je l'ai pris, mais si au bout d'un moment, le gars, tous les matins, il m'appelle et ça va où et c'en est où et c'est pas normal, oui, bon, bah écoutez, à un moment, vous reprenez vos dossiers, vous débrouillez tout seul et terminé, enfin...
Donc tu peux lui dire d'aller se faire voir chez
un
autre huissier.
Bah ouais, clairement, moi, je l'ai déjà fait, parce que voilà, c'est déjà suffisamment compliqué d'avoir à gérer l'état émotionnel de son débiteur, qui en plus, souvent, c'est dans des cas où ils peuvent plus piffrer les deux, donc voilà.
Mais j'allais te demander, est-ce qu'il n'y a pas des moments où t'as l'impression que ces réclamations sur des dettes, sur de l'argent, elles viennent en remplacement d'autres choses, peut-être ?
Ah bah si, moi quand j'avais des fois... j'ai le souvenir d'une nana qui m'avait appelé. Son gars, il lui devait genre, je sais plus, peut-être 8000 euros de pension, de machin, de trucs dans le cadre d'un divorce et tout. Elle me disait, vous saisissez tout ? Je dis, oui, ok, donc on bloque les comptes. Non, mais vous bloquez tous ces comptes ? Je dis, non, mais il y a assez sur un seul. Donc je vais pas aller tout bloquer, ça ne sert à rien, je ne vais pas faire ça. Et en fait, elle voulait tellement sa peau au mec qu'elle disait, je m'en fous, vous bloquez tout, tout, tout. Enfin... Et puis elle me disait, et puis s'il n'y a rien, vous recommencez, machin. Enfin, à un moment, il faut être aussi au milieu, quoi, et se dire, ben, on fait ce qui est nécessaire, ben, ni plus ni moins, quoi.
Des problèmes entre voisins, des problèmes sur des travaux, des problèmes
Des voisins aussi, j'en ai eu des sympas, ouais. Non, mais en fait, après, ils règlent leurs comptes, quoi. Donc on est un peu l'intermédiaire, non, mais il y a des situations.
Régler ses comptes.
Ouais, c'est ça, pour de vrai. Non, mais après, il y a des situations qui sont marrantes, mais le but, justement, c'est de temporiser.
D'essayer de faire baisser la pression.
Ouais, dire, bon, ça apporte quelque chose ou pas ? Non, bon, alors. Vous notez, maître, hein, vous notez, oui.
Tu fais de la diplomatie ?
Je note.
Pas mal de diplomatie, pas mal de psychologie, en fait.
Ouais,
hein.
Ouais, mais complètement.
Et sur la thune, parce que tu parles tout le temps de thune,
ouais.
À longueur de journée.
Oui.
Je sais quoi.
Bah oui, clairement. Bah oui.
Il y a aussi se mettre à la place des gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 100 euros ? Qu'est-ce que ça veut dire 1000 euros ? Qu'est-ce que ça veut dire 20 000 euros ? Enfin, je veux dire, ça va, selon les cas, ça va pas représenter la même...
Ben non, mais après, je pense qu'il faut pas avoir de jugement là-dessus. 100 euros, ça peut être des cacahuètes pour quelqu'un, comme ça peut être une somme monstre pour quelqu'un d'autre. Et c'est juste se mettre à la situation de la personne et se dire, pour vous, 100 euros, c'est déjà un gros effort. Donc c'est ok, on va partir là-dessus, on se rend compte que c'est déjà un effort, ça prouve sa bonne foi, etc. Et il y en a d'autres, 100 euros, c'est vous fichez de moi, quoi.
T'as déjà fait cadeau de tes honoraires ?
Non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit, c'est une profession réglementée. On n'a pas le droit de faire des remises sur ses honoraires, que ce soit aux clients ou aux débiteurs.
On va revenir un peu sur ce qu'est-ce qu'un huissier a le droit de faire, qu'est-ce qu'un huissier n'a pas le droit de faire. Un huissier peut débarquer chez toi n'importe quand ?
Non. Non, il y a des heures légales dans lesquelles on peut intervenir. Je ne dis pas de conneries, je crois que c'est de 6h à 21h et pas les week-ends, en tout cas pas le dimanche.
Un huissier peut donc avoir accès à tes comptes, en tout cas saisir de l'argent sur tes comptes.
Oui.
Un huissier peut t'expulser.
Expulser, saisir des salaires, faire l'inventaire d'un mobilier dans un appart, une maison, éventuellement vendre aux enchères, saisir des bagnoles. Enfin.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre un huissier ? Partir en courant, ça marche pas très bien.
Si, après, il y a des procédures légales. En fait, il y a un juge qui s'appelle le juge de l'exécution, qui est un juge spécial pour tout ce qui touche aux exécutions faites par les huissiers de justice. C'est pour les parties... c'est quand vraiment, dans le cadre d'une exécution, par exemple, l'huissier est venu chez moi dans une heure où il avait pas le droit, où il a saisi de l'argent sur mon compte qu'il avait pas le droit de saisir, parce que c'est pas à moi, parce que j'en sais rien.
Parce que si t'en es là, RSA, ça va être mal barré, parce que tu vas demander à un autre huissier de constater un
ouais,
truc
c'est un peu le problème et la limite du truc, mais n'empêche que ça existe. Enfin, un huissier qui va saisir, sur un compte bancaire... qui est pas la bonne personne, par exemple, j'en sais rien, je sais n'importe quoi, ça peut arriver.
Vraiment, il s'est gaufré, quoi.
Et après, il y a des chambres, le métier d'huissier, il y a une chambre nationale, et il y a des chambres régionales et des chambres départementales, et dans chaque chambre, en fait, il y a un pouvoir disciplinaire. Donc, si un huissier va faire une connerie, c'est ses pairs, entre guillemets, qui vont pouvoir aller le sanctionner. Et il faut pas croire qu'ils sont tendres, hein, ils sont pas tendres du tout, du tout.
C'est arrivé qu'on te demande des faveurs. Puisque t'es huissier, tiens, tu veux pas me constater gratos mon appart avant travaux, sommer le propriétaire de refaire la peinture parce qu'il y a de l'amiante. J'en sais rien, n'importe quoi.
Si, il y a des gens après qui demandent. Après, si tu demandais tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire cadeau de nos honoraires, bah là après c'est un truc un peu à titre commercial. Si le client veut pas lui faire payer son constat, on lui fait pas payer son constat. Mais enfin,
si c'est un pote, si c'est ton mec, si c'est.
Alors tu peux pas faire des exécutions, tu peux pas intervenir si t'as un lien de parenté, pour faire simple, avec la personne qui te demande.
Tu peux pas faire un truc pour ton mec.
Non. Ah bah ton mec si vous êtes pas marié, vous êtes pas concubin, vous êtes pas ceci ou cela, mais sinon non. Après, il faut bien faire son job aussi. Enfin, à un moment, si on est partie prenante dans le truc, c'est compliqué, quoi. Enfin,
Faut
mieux demander à un copain huissier de le faire pour nous. Enfin, franchement, c'est quand même un peu plus logique, quoi.
C'est plus malin.
Ouais.
Et pour toi-même, le fait d'être huissier, ça a pu te faciliter des situations ?
Non. Non, j'ai même cherché un moment avec mon conjoint à l'époque, on cherchait un appart. Et on l'a pas eu, alors même j'ai dit, mais je suis huissier de justice, je vais quand même payer mon loyer. Il a rien voulu entendre, le mec. Il nous a dit, non, c'est mort. Ok. Voilà, donc non, clairement, ça m'a pas forcément aidé.
Ah, c'est incroyable. Même quand t'es huissier, on te loue pas d'appartement.
Il voulait absolument une garantie de loyer impayé et on rentrait pas dans les cases.
C'est toi la garantie ?
Bah oui, mais ça lui suffisait pas. Quand on n'était pas salarié, qu'on avait pas un CDI chacun, son assurance marchait pas, donc il a jamais voulu nous lâcher son appart.
Alors oui, donc les discussions que t'as avec les copains ou les copines huissiers, ça tourne autour de quoi ? C'est quoi une... Si je rentre dans un bistrot et que je suis une petite souris et que je vous écoute parler...
Alors, on parle pas de nos dossiers. Par contre, on parle du quotidien et des associations, surtout.
C'est plus c'est des affaires de bureau.
C'est vraiment le sujet, c'est plus ça le sujet avec mes copains huissiers. J'ai un groupe WhatsApp d'ailleurs... Ouais, j'ai ça comme dossier, qu'est-ce que vous feriez, machin. Donc ça, voilà, c'est plus de l'échange pour se dire c'est un truc un peu particulier, j'ai jamais eu, est-ce que vous avez déjà eu, voilà.
Genre quoi ?
Je sais pas, genre une procédure qu'on voit pas souvent, un truc sur un bail rural, par exemple. Voilà, j'ai un congé sur un bail rural, je fais quoi ? Enfin,
c'est d'update juridique, quoi.
Ouais, voilà, on se donne un peu des petits conseils. Ou alors on se dit, ah, j'ai ça qui arrive, j'ai, je sais pas moi, 30 actes à délivrer, vous prenez combien ? Est-ce que vous ajoutez un honoraire ou pas ? Voilà, c'est plus des sujets comme ça. Mais sinon, après, vraiment, quand on discute plus entre nous de la profession, c'est plus on discute de la profession et des relations associées, l'avenir, comment on se projette dans les études ou pas. Il y a
un c'est peu plus des sujets autour de ça, chefs d'entreprise qui parlent de leur boîte, quoi, fait, de leur... comme entrepreneur.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale chez les huissiers ? Est-ce qu'il y en a qui craquent ou qui, peut-être, font des burn-out ou... Ou qui, en sortie de bureau, un jour, je sais pas, pas tenir le coup ce jour-là ?
Alors, oui. Mais est-ce que c'est lié... Ben, c'est pareil, c'est pas forcément lié au métier en tant que tel. Je pense que ce qui peut faire vriller, c'est plus les conditions de travail, en fait, des fois, qui peuvent être compliquées. Et notamment, ce que je disais, les liens entre associés, les liens avec ses collabs. Enfin, c'est l'accumulation de tout qui peut faire qu'à un moment, on peut vriller, ouais.
Les horaires, peut-être ?
Ouais, les horaires. Après, je pense que les horaires et le fait qu'on doit faire des dossiers en urgence pour des clients, ça fait partie du boulot. Donc, en fait, à un moment, je dis pas qu'on peut pas craquer juste à cause de ça, mais ça, on le sait. Enfin, donc, on y est habitué, etc. Comme dans n'importe quel métier, en fait. Un métier qui est exigeant. Quand on prend des soignants, par exemple, des gens qui sont soignants, ils sont dans le soin. C'est compliqué, ils voient des situations difficiles, etc. Mais s'ils ont une équipe hyper soudée, s'ils ont les moyens de travailler correctement, s'ils ont du monde au-dessus d'une hiérarchie, etc., qui est bien, le métier est dur, mais finalement, ils le tiennent. Alors que quand on commence à tout dégrader autour, c'est là où ils commencent à vriller. Donc en fait, c'est un peu pareil, je pense.
Il y a une dimension commerciale, puisqu'il faut les trouver, ces clients.
Ouais.
Alors comment on fait pour trouver des clients ?
Ah bah ça c'est la grande question. Hein.
On s'habille différemment, on va dans des cercles.
Bah non mais alors ça c'est vraiment une question qui est hyper touchy chez les huissiers et clairement où moi je me serais fait sanctionner si j'avais continué à faire cette profession c'est sûr. Donc je vais pas trop non plus m'étendre entre guillemets parce que c'est un sujet qui m'agace en fait. En gros les huissiers n'ont pas le droit de faire de pub donc ça ok on n'a pas le droit de dire qu'on est le meilleur que son voisin etc. Ils peuvent faire de la sollicitation personnalisée, c'est-à-dire écrire à un dirigeant en disant « Monsieur machin, voilà, je suis huissier, je fais ça. » Ok. Mais ils peuvent communiquer sur la profession, mais pas tellement sur ce qu'ils font eux. Enfin, bref, c'est un espèce de truc un peu...
C'est comme les avocats, il faut faire...
C'est compliqué. Ouais, non, les avocats, c'est même plus... Franchement, les avocats, c'est plus cool. Hein. Les huissiers, c'est plus comme les notaires, quoi. On peut faire de la promotion de la profession, mais chacun individuellement n'a pas le droit d'eux, mais quand même, il peut faire d'une façon individualisée, machin. Donc en gros, c'est un peu le pas vu, pas pris. Hein. Mais si on s'expose trop, ben, du coup, on s'expose aussi à être vu par les confrères. Et donc, du coup, les confrères, comme ils sont pas contents, ben, c'est eux-mêmes qui, après, viennent sanctionner, quoi.
Et ils te balancent.
Ouais, ils convoquent... Enfin, voilà, il y en a, moi, j'en connais. Hein, ils se sont fait convoquer devant la chambre des huissiers en disant « Venez vous expliquer sur vos communications, sur les réseaux, sur les machins, quoi. » Par les confrères. Enfin, voilà, vive la confraternité, quoi.
Ah ouais, là, tu peux prendre des amendes.
Bah là, tu peux te prendre des sanctions disciplinaires, ouais. Alors, pas des amendes, mais j'en sais rien, moi, un blâme, un machin, voir si vraiment ça va loin, une interdiction d'exercer pendant une semaine, ou j'en sais rien. Enfin, ça peut aller loin, en fait.
Ah ouais.
Ils n'ont pas le droit d'être dans les réseaux, genre les BNI, les machins des réseaux d'affaires. Mais en fait, il y en a plein dans plein de réseaux. Donc, tant que personne leur est tombé dessus, ben tout va bien. Mais enfin, voilà, c'est un peu tout ça qui est. Mais évidemment que pour n'importe quelle entreprise. Si on veut faire tourner sa boîte, bah, il faut communiquer. Enfin, ça paraît logique. Donc, d'où le fait que moi, je me serais fait épingler à un moment ou à un autre. Et puis, en fait, à un moment, tout le monde est sur les réseaux. Enfin, il y en a plein des huissiers qui communiquent sur les réseaux, en fait. Et moi, pour moi, ils ont totalement bien raison de le faire. Ils font parler de la profession. Ils montrent un peu le back-office. Ce qu'on est en train de faire là, en fait. Ils expliquent un peu à tout le monde comment ça fonctionne, le métier, et chez eux, comment ça marche. Enfin, je trouve ça super chouette pour des clients. Et ça attire du monde, et tant mieux pour eux, en fait, il n'y a que comme ça que ça marche. Enfin, quand on reste cloîtré dans son bureau en attendant que ça tombe, ben, bizarrement, ça tombe pas, quoi.
Est-ce que tu t'habilles pareil quand t'as des rendez-vous clients ou quand t'as des rendez-vous débiteurs?
Alors, oui et non, je pense que la tenue de base ne change pas. Par contre, clairement, dans la voiture, il y a les bottes, il y avait tout ça. Enfin, je sais que j'ai une copine là qui est huissier, son coffre de voiture, ça me fait rire à chaque fois, quoi. Elle a les bottes, elle a les gilets, elle a le machin, enfin, elle a tous les trucs pour aller sur ses constats. Donc, quand elle arrive, elle en met. Si elle avait des talons, elle enlève ses talons, elle met la paire de baskets, le caouet, le machin, enfin, l'élastique dans les cheveux, et c'est parti, quoi. Si après, elle doit aller un truc réseau, elle se refait le petit broche, elle remet ses chaussures à talons et on y va, quoi.
Est-ce que parfois, faut être malin pour arriver à dégoter l'argent?
Faut être habile, en fait. Enfin, il faut discuter avec les gens. Après, c'est pas de la manipulation dans le sens. Négatif du terme, mais il faut savoir faire une relation de confiance avec la personne. En fait, les gens, des fois aussi, quand ils ont plusieurs créanciers, ils payent celui qu'ils aiment bien. Donc nous, personne ne voulait payer l'URSSAF, mais tout le monde payait quand même la collaboratrice qui s'occupait de l'URSSAF parce que tout le monde l'aimait bien. Donc en fait, elle arrivait à être payée. Qu'elle était URSSAF à la base, parce que c'était l'URSSAF qui était le client au bout du bout.
Parce que c'est une nana qui a l'air sympa.
Parce que c'était elle, parce qu'elle avait le lien avec les gens, et parce que du coup, ils disaient « Ah bah oui, bah attendez, je reviens le mois prochain, maintenant vous avez fini votre dossier. Ah bah je viendrai quand même vous dire bonjour. » Voilà. Enfin... Et du coup, ils disaient « Ah non, mais celui-là, c'est pour vous, ça j'ai fait exprès pour vous, je vous le mets de côté, je vous le verse le mois prochain, machin. » Et donc, ils avaient l'impression de payer à elle, mais c'est pas à elle qui devait de l'argent, c'est à l'URSSAF, et pour autant, ils lui payaient à elle quand même, enfin... Donc, c'est pas tellement des techniques, mais c'est plus de créer un lien suffisamment proche avec les gens pour qu'ils aient envie de nous payer, nous, et pas quelqu'un d'autre, quoi.
C'est marrant parce que ça me fait penser à ce film qui était sorti il y a une dizaine d'années, peut-être plus, je sais plus, qui s'appelait... je l'ai pas vu, hein, mais ça s'appelait « Je ne suis pas là pour être aimé ». Et je sais que le héros, c'était un huissier, justement. Et ce que tu me racontes, c'est un peu exactement l'inverse. C'est cette huissière, elle arrive à se faire aimer assez pour qu'on lui paye l'URSSAF.
Si, je pense que si. C'est alors pas être aimé dans le sens... c'est plus dans le sens, si la personne elle est pas contente et qu'elle va nous faire une scène, elle nous fait une scène, ok. Enfin, on n'est pas là pour être forcément aimé de tout le monde, mais effectivement, si on a des bons liens avec les gens, on met le maximum de chances qu'ils nous payent, le maximum de chances de notre côté.
Et tu te fais beaucoup détester à l'envers?
Oui, forcément, parce qu'il y a des gens, ça va pas leur plaire, quoi. Quand on vient faire une saisie, c'est sûr que les gens ils brillent, hein. Donc si, il y en a qui nous détestent et il y en a qui nous adorent. Enfin,
t'as une grande capacité à t'en foutre?
Ça touche forcément, parce que... moi, je sais que ça me touchait forcément. Mais après, j'ai plutôt la capacité à me dire, à reprendre du recul et à me dire, oui, OK, il y a ça, il n'est pas content. Donc, il y a les quelques minutes où je le prends pour ma personne et OK, on encaisse, quoi. Et après, OK, de toute façon, il n'est pas content. Je pouvais pas vraiment faire autrement. Et de toute façon, c'est le boulot et c'est comme ça. Enfin, donc, c'est pas...
Tu sens venir quand ça va mal se passer?
Oui et non. Quand on le sent pas venir, c'est là où je pense qu'on le prend un peu plus violemment. Quand on le sait, on le sait. Moi, il y a des fois, j'ai fait des saisies, je me suis dit, je vais faire la saisie, je vais bloquer l'argent, l'autre, il va débarquer, il va péter un câble. Bon, on le sait. Limite, on l'attend. On le sait, qu'à un moment, le gars, il va appeler ou il va venir, il va pas être content, quoi.
Ah, ils viennent dans le bureau?
Ouais, il y en a qui viennent, ouais. Ouais, il y en a eu un ou deux déjà aussi qui étaient un peu violents, violents au bureau. Et voilà, après, soit c'est vraiment dangereux et on fait en sorte que le mec... soit plus là, soit il y a quelqu'un qui le calme, soit à un moment il y a les flics quoi qu'on appelle hein, si jamais vraiment ça part en live,
mais on sait jamais. Ça
ouais, mais c'est hyper marginal. Soit on arrive à faire redescendre la température.
Ça c'est classique. En fait, il y a y a pas une étude de huissier qui s'est pas arrivée quoi.
Non, bah, toi, gérer clients, la colère des gens, ça fait partie du boulot ouais quand même. Ouais.
C'est quoi les bons trucs pour faire redescendre la pression?
Parler doucement. Parler pas fort. Parler pas fort, s'asseoir, se mettre dans un bureau fermé. Enfin voilà, dire à la personne bah, qu'on va l'écouter quoi. Et ouais, en faire descendre un peu le. Parler plus fort que lui en étant debout et en faisant des grands gestes, ça fait qu'exciter tout le monde en fait. Donc c'est plus l'inverse de redescendre, ouais.
Et les gens, c'est vraiment la. C'est quoi? C'est de l'angoisse? C'est de la peur d'être, de se retrouver dehors? C'est de l'insécurité? C'est de la colère du fait qu'on leur a retiré quelque chose? Qu'est-ce qui va faire vriller vraiment?
Je pense qu'à un moment, des fois, il y en a, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'on les a pas compris, qu'on les a pas écoutés, en fait. Et que du coup, ils se disent, mais je vous avais dit que je pouvais pas, pourquoi vous avez bloqué mon compte? Donc je pense qu'il y a un peu le côté incompréhension. Et après, oui, le fait de gens qui peut-être un peu désespoir, quoi. Ils se rendent pas, ils voient pas comment ils peuvent s'en sortir et donc du coup, ils s'énervent. Ils sont en colère en fait. Mais à la limite, moi je préférais quelqu'un qui soit en colère. Ou au moins. Parce qu'en fait, des fois, il y en a aussi, il faut voir, ils ont zéro réaction quoi. Donc, moi des fois, il y en avait, au moins ils étaient là quoi. C'est bah, au moins vous êtes venus. Et genre, au moins maintenant on peut parler. Parce que jusqu'à présent, bah en fait, vous m'avez jamais répondu, ou vous m'avez jamais donné signe de vie, ou enfin. On n'a jamais pu échanger, ne serait-ce que par téléphone, et il y a que ça qui vous a fait réagir quoi. Donc il y a des fois aussi, c'est un peu... Enfin moi, j'utilisais aussi un peu comme ça, quoi. Le gars, ben, on va lui faire une saisie et comme ça, au moins, il va réagir. Et là, après, on pourra discuter.
Pourquoi t'aimes pas quand il réagisse pas?
Bah parce qu'on sait pas ce qui se passe, en fait. Donc comment on peut avoir une exécution? Enfin, oui, mais moi, je peux pas. Mais comment je peux savoir que vous pouvez pas si vous m'avez même pas appelé? Ou on perd pas de temps. Quelqu'un où il a vraiment pas les moyens, les dossiers, on les gardait pas, en fait. Enfin, quand à un moment, c'est insolvable, insolvable, mais nous, on n'a pas de baguette magique, hein. On va pas créer de l'argent, enfin. Quand en face, la personne, elle a zéro revenu, qu'il n'y a rien, 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 bon, bah, il n'y a rien. Enfin, c'est plié, quoi. On ne peut rien faire de plus. Mais ça, il faut le savoir le plus vite possible. Sinon, on fait des frais, parce qu'après, aussi, pour le client, plus ça dure et plus on fait des actes et des trucs, plus les frais vont rester à sa charge aussi au client. Donc, du coup, le client non plus n'a pas intérêt à ce que ça dure des plombes avec quelqu'un qui ne nous répond pas, quoi.
Est-ce qu'il y a des huissiers stars?
Ouais, il y a des grosses études. Après, mais parce qu'après, ça dépend ce qu'on met derrière le mot star, quoi. Enfin, moi, ce qui m'inspire, c'est plus des études où on se dit, purée, ils ont senti le vent tourner, ils ont été hyper visionnaires, ils ont monté des études. Enfin, c'est des vrais chefs d'entreprise. Ils font plus du tout de terrain, ils gèrent leur boîte, ils se rapprochent d'autres. Enfin, ils font des partenariats, ils font des trucs. Enfin,
tu peux ne plus faire de terrain?
Bah, au bout d'un moment, ouais, quand tu commences à devoir gérer, je sais pas moi, 4 établissements, 50 collaborateurs.
Ah oui, t'envoies tes clercs, t'envoies.
Bah ouais, et puis tu gères ta boîte, quoi, enfin, ouais. Comme n'importe quel.
Ah oui, au bout d'un moment, il peut y avoir des huissiers qui, en fait.
Ils font du réseau, ils entretiennent les relations avec leurs clients, etc., etc. Et du coup, ils pensent à leurs partenaires, il faut changer de logiciel, il faut faire de la dématérialisation, de la digitalisation, qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients pour des trucs, une expérience un peu meilleure, faire du drone, du machin, enfin j'en sais rien, il y a plein de choses.
Toi, tu t'es barré pour des histoires d'un truc de bureau
D'associé,
ouais. C'est pas le métier lui-même qui t'a.
Ah non, c'est absolument pas du tout le métier qui m'a fait partir. C'est juste. Voilà,
c'est fou, c'est, hein, c'est on n'imaginerait pas que ça puisse.
Ouais, mais comme c'est une profession réglementée, ce que j'étais tout à l'heure, je pouvais pas me arrêter, quitter mes associés, mettre ma plaque et monter mon étude en fait. Donc, et puis même si j'avais pu le faire, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait parce que c'était rentrer en guerre ouverte avec mes anciennes associées et je ne sais pas si j'avais envie de ça. Enfin, clairement, même non, j'avais pas envie de ça.
T'as revendu tes parts?
À mes associées.
Voilà. Est-ce que t'as fait une plus-value?
Non, que dalle. J'ai récupéré ça, mes 30 000, mes fameux, ouais. Que mes parents m'avaient prêté au début, moi je les ai retrouvés. Ni plus ni moins, en vrai, c'est ça, je les ai remis dans ma boîte.
Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique d'Emma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thunes, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.